à tous, heureuse de vous retrouver pour cette dernière semaine de Grande Table. Alors que le spectacle vivant va passer un été sans festival, avec l'annulation notamment du IN et du OFF d'Avignon, ou encore le report de Montpellier Danse à la rentrée, quand et comment pourrons-nous retourner au théâtre? Certains visent septembre, d'autres rouvrent prudemment déjà maintenant. En attendant, la Nuit des Molières aura lieu demain soir pour honorer certains grands rendez-vous de l'année écoulée. Invitée jusqu'à midi et demi, la metteur en scène et directrice du théâtre Gérard Philippe à Saint-Denis, Julie Deliquet. Puis, peut-on réconcilier les Français avec le climat et les citoyens avec leurs institutions? Lendemain de convention, rendez-vous à 12h55 avec la politologue Hélène Landemort et la constitutionnaliste Marianne Coande. On est ensemble jusqu'à 13h30 et c'est un plaisir. Bienvenue sur France Culture.
La Grande Table. Olivia Gesbert.
Comme metteur en scène, elle a récemment adapté au théâtre les films Fanny et Alexandre de Bergman à la Comédie Française, puis Conte de Noël d'Arnaud Desplechin au théâtre de l'Odéon. Pour l'Opéra de Paris, elle a réalisé Violetta. Ce court-métrage est à voir en ligne et bientôt au cinéma. Ce sera le 8 juillet avec trois autres films commandes de la troisième scène de l'opéra. Celui de Sergueï Losnitsa, celui de Karim Moussaoui et enfin celui de Jafar Panahi. Elle a aussi succédé le 2 mars dernier à Jean Bellorini à la direction du théâtre Gérard Philippe, le Centre Dramatique National de Saint-Denis, à peine nommé et tout de suite confiné. Quelle histoire! Bonjour Julie Deliquet.
Bonjour.
Bonjour. Et en vadrouille en ce moment partout en France. On a le plaisir à vous avoir avec nous aujourd'hui pour ouvrir cette semaine consacrée en grande partie au spectacle vivant qui a, comme beaucoup de pans, secteurs de la culture, beaucoup souffert de la crise sanitaire, mais qui essaye de retrouver ses marques et de redémarrer cette fin de saison. Sidération, frustration, réaction. On imagine que vous, vous êtes passé un peu par tous les états ces dernières semaines. L'annonce de la possible réouverture des théâtres début juin en zone verte, puis mi-juin partout en France. Est-ce que ça apparaît comme une sorte d'éclaircie pour vous, au bout du tunnel, Julie Deliquet ?
Oui, quand même. Même si moi, j'ai toujours été prudente et on a vraiment suivi les différentes injonctions qui nous étaient données par le gouvernement. Et je me disais toujours que l'été et la rentrée, c'était loin. Et que on ne pouvait pas, pour l'instant, partir sur des possibilités pessimistes. On était plutôt à défaire, à refaire, à s'adapter et à espérer effectivement une rentrée théâtrale réorganisée qui s'apparenterait peut-être à un retour à la normale ou alors à une adaptation qu'on souhaitait en tout cas pour que après l'annulation d'Avignon, qui a été, je pense, pour nous toutes et tous un coup de massue, imaginez quand même que l'onde de choc n'allait pas se propager jusqu'à la rentrée et toucher la réouverture des théâtres, mais plutôt qu'on allait regagner ce retour au plateau, déconfiner nos plateaux, retrouver le chemin des répétitions et dans un second temps, le chemin des représentations.
Et alors là, on en est où? Vous rouvrez quand? Vous avez commencé déjà à répéter?
Oui, on a réouvert les murs du théâtre fin mai, début juin. En fait, moi, j'ai considéré que c'était important que le retour au travail, le retour des travailleurs, ce soit les équipes techniques, les équipes administratives, mais les artistes aussi. Ce sont des travailleurs comme les autres. Et symboliquement, je voulais que on reprenne le chemin du théâtre. Et moi, ce chemin que je commence tout juste au théâtre Gérard-Philippe de Saint-Denis, mais que les artistes puissent aussi reprendre le chemin des répétitions, même si, évidemment, c'était pas des répétitions dites normales, c'est-à-dire que c'était sans technique, c'était quand même plutôt des débuts de projet, des formes plus lourdes ou qui impliquent le fait que les gestes barrières ne puissent pas être respectés. Dans un premier temps, on était nous encore en zone rouge, c'était absolument pas imaginable. Mais symboliquement, on a repris le travail tous ensemble.
Et votre public, Julie Deliquet, est-ce qu'il va pouvoir retrouver prochainement le chemin des salles et du théâtre? Alors là, il a pu, ces dernières semaines, regarder plein de théâtres à la télé. Il va encore pouvoir le faire cet été, notamment sur France Télévisions. Il a pu écouter, j'espère, beaucoup de fiction, notamment sur France Culture. Et ce sera encore le cas début juillet, à l'occasion de ce Rêve d'Avignon, orchestré par Blandine Masson sur notre antenne, à partir du studio 104 de Radio France. Mais c'est pas totalement pareil. En tout cas, c'est clairement complètement différent. Est-ce que du coup, vous pensez pouvoir ouvrir les portes, même pour certains événements, à votre public avant septembre ?
Alors, pour les spectacles, non, mais c'est aussi lié au fait de ma nomination et le fait qu'on a dû mettre en place un projet et que pour l'instant, puisqu'on avait en plus des reprises pour le mois de septembre, on était vraiment dans la capacité de se projeter, c'est-à-dire que je pense qu'il y en a qui attaquent avec des créations et qui sont aussi sur la coupe de savoir est-ce que les répétitions seront menées normalement, est-ce qu'on sera à un retour normal des modalités de répétition ou non. Nous, c'est vrai que les spectacles qui rouvrent sont déjà prêts, ils peuvent s'adapter s'ils doivent le faire. Donc on a travaillé prioritairement là-dessus et on a décidé symboliquement pour la réouverture du théâtre au public de se consacrer aux familles et aux enfants dionysiens et aux adolescents en offrant au mois de juillet des ateliers un peu partout dans les salles gratuits aux familles et aux enfants de la ville.
Vous évoquiez Avignon tout à l'heure, Julie Deliquet, Avignon où le in et le off ont donc été annulés. On va écouter les mots du metteur en scène Alain Timard et ceux de la maire d'Avignon, Cécile L. C'était à la mi-avril dernier.
Tout était prêt pour répéter. Tous les projecteurs, une partie des costumes, il y avait déjà plein de choses qui se mettaient en place. Hein, voilà. On attendait le public. Donc là, tout est fichu par terre. C'est triste pour les artistes, c'est triste pour les compagnies, c'est triste pour le public. On a reçu un coup sur la tête. On est véritablement KO.
Pour nous, voilà, c'est une nouvelle épreuve parce que c'est près de 700 000 personnes qui viennent sur 3 semaines et qui fréquentent la ville d'Avignon, qui sont dans les commerces et qui font vivre aussi tous les lieux culturels. Donc c'est vrai que pour nous, il y a aussi une conséquence en matière de rayonnement culturel.
Voilà, l'annulation d'Avignon, un drame pour les petites compagnies, notamment pour la ville aussi, mais un système qui peut-être, Julie Deliquet, on ne le dit pas souvent, commençait un peu à tirer la langue ou à tirer à la ligne, notamment pour les petites compagnies présentes dans le off. Avignon peut être très cher et on imagine là, avec les frais engagés sur pas mal de spectacles, ce que ça va représenter. Et c'est assez dramatique. Est-ce que vous pensez que ce qui est en train de se jouer là, ce sera quand même pour le monde du théâtre, et on va venir sur le fond, mais aussi sur la forme, sur le système, l'occasion d'une remise en question, sur cette économie, celle du spectacle vivant?
Oui, on a du mal à voir effectivement ce que ça va remettre en question, parce que évidemment que c'est les plus fragiles là qui sont impactés les premiers et qui vont l'être aussi. Et il va falloir que nous, on y soit aussi en tant que structure attentifs. Avignon, effectivement, ça coûte cher pour les petites compagnies et à la fois c'est un pari sur l'avenir, c'est-à-dire que c'est une exposition inédite. Donc c'est ça qui est difficile, c'est qu'on est, nous, dans des modalités de production souvent à 2 ans. C'est-à-dire que c'est long à se mettre en place, à produire, et puis après c'est la diffusion qui doit se mettre en place. Et quand on fait Avignon, évidemment qu'on diffuse pas, on vend pas des dates pour la saison en cours, on vend pour 2 saisons. Donc ce qu'on a du mal à mesurer là, c'est à quel point ça va impacter notre modèle de production et du coup déplacer la fragilité dans laquelle on est, mais qui va courir sur les saisons à venir. Alors peut-être qu'effectivement c'est un modèle qui va se bousculer, qui va se réinventer autrement. Là, on a un peu le nez collé sur la feuille. C'est impossible de se projeter, si ce n'est qu'on voit que 21-22, la saison donc suivante, sera elle-même vraiment complètement impactée de la crise qu'on est en train de traverser. Est-ce que les grandes formes vont être en mesure de se créer comme avant? Alors on voit qu'il y a il y a un pendant qui sont des formes beaucoup plus adaptées, qui sont beaucoup plus souples. Moi, ou par exemple, qui m'inspire terriblement, mais parce que je viens de là, je viens d'un théâtre assez pauvre où finalement si j'ai que des acteurs, je suis capable d'être complètement inspirée et de faire du théâtre. Mais il faut aussi respecter les artistes qui ont besoin de plus esthétiquement, qui ont envie de rêver en plus grand. J'espère aussi que ça va pas tarir cet élan-là et que chaque artiste pourra quand même rester dans cette possibilité de choix du théâtre qu'il a envie de défendre. Et qu'on rentre pas non plus dans une autre ère plus radicale qui viendrait à former les propositions du fait qu'on n'ait plus les moyens d'assurer des choses qui sortent du cadre. Mais là, aujourd'hui, on est plus déjà à se dire « reprenons nos métiers ». Et nos métiers sont publics, c'est pas nos métiers. Donc pour l'instant, cette reprise-là, elle est pas actée. Et puis après, recommençons à trouver l'insouciance qui nous est nécessaire pour aller jusqu'à la création. Autrement, on va rentrer aussi dans une ère très très étrange. Déjà que c'est difficile de monter une production, déjà que il y a une grande précarité dans nos métiers. Il va falloir aussi qu'on nous accompagne pour pouvoir retrouver cet élan de création nécessaire et puis retrouver notre place dans la société.
Vous avez une belle histoire, vous, Julie Deliquet, avec votre collectif In Vitro, avec le Festival d'automne, un festival qui nous est cher ici aussi à France Culture. Vous en avez une aussi comme metteur en scène avec Avignon ?
Non, pas encore. Non. Non, c'est vrai que le Festival d'automne nous a été fidèle et nous a accompagnés assez tôt finalement dans notre histoire théâtrale. Et d'ailleurs, j'ai eu peur qu'après Avignon, ce soit le Festival d'automne qui soit impacté. Ce qui a été à un moment donné, ce qui a été la crainte de mai, quand on était vraiment dans pas du tout savoir si on pouvait se projeter sur l'automne ou si tout d'un coup les réouvertures seraient plutôt au mois de janvier. On est revenu de ce moment-là, mais c'est vrai que c'est un moment très important et c'est une programmation à laquelle je suis très attachée.
Et vous pensez que vous êtes plus dans la couleur d'un festival comme le Festival d'automne que dans celle d'un festival comme Avignon ? Est-ce qu'il y a comme ça des partis pris créatifs et éditoriaux ? Et vous avez le sentiment que le théâtre que vous défendez correspond plus à l'état d'esprit d'un festival comme celui de l'automne que le grand festival d'été qu'est Avignon ?
Non, je crois que c'est les rencontres aussi humaines qui fait que il y a eu des paris avec Marie Collin au Festival d'automne et avec Emmanuel de Marcimota qui finalement ont aussi découvert des équipes dites en émergence, ce qui était notre cas, et qui ont choisi aussi de faire le pari d'accompagner ces équipes non connues, et une fidélité comme ça c'est opéré avec ces structures aussi, parce qu'avec le collectif In Vitro, en dehors des spectacles, il y a beaucoup d'actions qu'on mène conjointement, et du coup on crée des histoires. Moi je crois beaucoup aux histoires familiales et aux ramifications. Voilà, ça c'est pas encore fait avec le Festival d'Avignon, même si on a été en rapport, mais j'espère un jour le faire, et notamment aussi pour le plein air. Je trouve que c'est une expérience, en tout cas moi en tant que spectatrice, Avignon, le plein air et le fait qu'on soit un peu hors du temps, puisque c'est sur le temps d'été, où je trouve que j'ai des souvenirs en tant que spectatrice de vraies expériences théâtrales qui m'ont marquée à vie. Mmh.
Elle défend aujourd'hui, comme vous, la nécessité de dialoguer, de dire ce qu'il en est, de faire en sorte aussi que la création ne soit pas touchée par la contrainte économique qui succédera, si elle n'est pas déjà là, à la contrainte sanitaire. Je vous propose d'écouter les mots de la metteur en scène Ariane Mnouchkine.
Il faut d'abord essayer de comprendre le monde qui est parfois incompréhensible, tenter de résister à cette pente vers laquelle il semble aller. Si on regarde le monde en ce moment, c'est pas drôle. Je trouve que nous sommes très mal gouvernés, voilà. Alors, je pense que c'est vrai que ce pauvre jeune gouvernement inexpérimenté ne pouvait pas s'attendre à tout ce qui lui est arrivé, mais au fond quand même, s'il avait lu certains rapports, s'il avait fait un petit peu plus confiance aux citoyens, si, etc., etc., les choses auraient été moins terribles. Je pense que c'est très difficile pour nous, les gens de théâtre, d'avoir vécu ce qui se vit en ce moment, de voir le monde actuel sans avoir envie d'en parler. Et donc, bon, nous risquons d'être nombreux à avoir envie de parler de ce qui se passe en ce moment. Ou peut-être au fond, au contraire, peut-être nous ne serons même pas suffisamment à en parler pour l'éclairer. Je ne suis pas inquiète pour l'art du théâtre, je suis toujours inquiète pour les gens de théâtre, mais pour l'art du théâtre, non, il est immortel.
Elle était en colère, la fondatrice et directrice du Théâtre du Soleil, quand elle a donné cet entretien mi-juin à l'Institut français de Tunisie, en colère contre ce mot de culture qui n'était pas suffisamment prononcé selon elle, qui ne faisait pas suffisamment débat, et ce malgré les mesures annoncées par le président de la République sur l'intermittence. Il vous inspire, vous, ce monde, Julie Deliquet, aussi incompréhensible soit-il ?
Ah oui, je suis d'accord avec ce que dit Ariane Mnouchkine. Je suis pas inquiète quant à l'élan de création qui va suivre. Notre travail, c'est de représenter le monde face au monde. C'est ça, dans le théâtre vivant, c'est aussi cette porosité-là qui fait qu'on s'adresse au monde et qu'on le représente et que c'est notre travail et que chaque artiste le fait à sa façon. Donc je ne sais pas, ça, chaque artiste a vécu le confinement comme étant un élan créatif ou non. Moi, personnellement, ça m'a pas donné des ailes d'envie de création, ça m'a plutôt abattue sur le moment où, en tout cas, j'avais des envies, mais beaucoup plus lointaines. Mais encore une fois, parce que moi, il me faut un peu d'insouciance et il faut que ce soit léger pour que j'aie envie de créer. Après, je pense que maintenant qu'on va retourner au travail, on l'a vu, hein, la réouverture de nos salles de répétition, retrouver l'essence même de notre métier, c'est-à-dire faire les uns avec les autres, a créé une préciosité aussi de ce moment qu'on avait perdu, qui donne envie de se remettre au travail et de questionner aussi ce qui s'est passé, de près ou de loin. Chaque artiste le fait comme il l'entend. Mais bien évidemment qu'on a aussi une place à reprendre de notre art, qui est l'art du direct et qui fait qu'on est complètement en prise avec notre temps et avec notre monde. Alors même si les spectacles ne parleront peut-être pas directement de ce qui nous a impacté, ils vont résonner par rapport à ce qu'on a traversé. Mais comme ils résonnent à chaque fois, quand on a des spectacles qui se sont représentés après les attentats, par exemple, c'est évidemment aussi toute la place et toute la fonction de la culture dans notre société. Une société sans culture serait une société tout autant malade qu'elle ne l'a été.
Mais ça doit interroger aussi, pour vous, on imagine, parce que vous avez cette double casquette, hein, une fois encore, de metteur en scène et de directrice de théâtre d'un centre dramatique national qui est celui de Saint-Denis. Depuis plus d'une dizaine d'années, avec votre collectif In Vitro, vous êtes, vous, une metteur en scène du collectif, et cette situation-là, elle pourrait vous contraindre à remettre de la verticalité, hein. Cette idée de l'écrire ensemble, elle est plus compliquée peut-être à envisager aujourd'hui, et elle pourrait vous faire basculer vers une création plus solitaire, ou au contraire, vous vous dites, plus que jamais maintenant, c'est ce temps du collectif qu'il faut réimaginer et réinventer.
Bah, c'est exactement ça, c'est plus que jamais. Et je pense que c'est la leçon que moi j'ai tirée du confinement et de ce qu'on a traversé. J'en parlais avec des amis médecins qui disaient que justement l'ère pyramidale avait complètement s'était écroulée et que il s'était rendu compte à quel point l'agent d'accueil, l'aide-soignante, le médecin en réanimation avaient travaillé conjointement. C'était auto-organisé pour que les choses se fassent, pour que des services de réanimation s'ouvrent pour les adultes dans des hôpitaux qui, à l'origine, étaient des hôpitaux pour enfants. C'est-à-dire cette chose qui, sur le papier, administrativement, n'est pas possible, tout d'un coup, cette cohésion a fait que c'était possible. Et ça s'est vu dans le milieu hospitalier, ça s'est vu dans toute la solidarité alimentaire qui s'est auto-organisée souvent par les habitants, par les associations pour venir en aide aux plus fragiles. Et ça s'est vu avec l'école. Quand on voit l'organisation, l'auto-organisation sans formation qu'ont opéré nos enseignants avec nos enfants, l'implication des parents, etc. Enfin, pour moi, on a eu une sorte de modèle d'une société qui, par solidarité, collectivement, s'est organisée et finalement a enlevé le quantitatif pour rajouter du qualitatif. Et moi, c'est vraiment la leçon que je garderai de ça. C'est comme ça, en plus, que j'ai fait mes premiers pas de directrice. Je suis arrivée dans un théâtre qui a fermé et j'avais une équipe qui connaissait évidemment sur le bout des doigts son fonctionnement et moi qui étais en apprentissage. Et j'ai vu à quel point appeler un artiste pour trouver une solution de report ou annuler un atelier scolaire, comme l'un allait avec l'autre, et qu'il n'y avait pas de hiérarchie, et que on est tous dans un même bateau pour donner du sens à ce qu'on fait, et notamment dans le fait qu'on remplit une mission de culture publique. Donc moi, ça m'a encore plus donné envie de défendre le collectif, et qu'on est plus fort comme ça, et qu'on est plus sensé.
France Culture, il est midi 20 avec la metteur en scène Julie Deliquet. Elle est aussi la directrice du théâtre Gérard Philippe. On écoute Agnès Obel. Thank you. Les gens de théâtre qui pensent à rouvrir leur lieu de création. Il y a les cinémas qui ont le droit de rouvrir aujourd'hui et peut-être les cinéphiles qui reprennent la route des salles. Et il y a la musique avec des concerts. Beaucoup ont été suspendus. Les jauges ont été extrêmement réduites. Elle devait donner un concert, elle, aux Nuits de Fourvière et à la scène musicale. Mais sa tournée est entièrement reportée au printemps 2021. Elle ne peut pas voyager pour l'instant ni venir jusqu'à nous. C'est la pianiste danoise Agnès Obel qui sort néanmoins ce nouvel album. Cette année, son quatrième. On vient d'écouter Myopia avec ce titre Broken Sleep.
France Culture, La Grande Table, Olivia Jesbert.
Et notre invitée, Julie Deliquet. Une nomination pour Fanny et Alexandre pour le comédien Jean Chevalier dans la catégorie révélation masculine. La nuit des Molières aura lieu demain soir. C'est un rôle que vous lui avez accordé, que vous lui avez donné, Julie Deliquet, lors de ce Fanny et Alexandre, joué à la Comédie Française. C'est un rôle qui nécessitait de savoir jouer l'enfant.
Ah non, pas du tout. C'est un rôle qui nécessitait que ça la fonction de Jean Chevalier au sein même de la troupe de la Comédie Française ait un sens. Et c'était le dernier arrivé des garçons. Donc à partir du moment où c'était le dernier, c'était l'enfant de la troupe. Et il allait me mener vers l'Alexandre de Bergman, qui fait que Alexandre observe ses aînés sous la table, et moi, Jean Chevalier, allait me servir de regard pour observer cette troupe, son fonctionnement, son histoire, et voir comment il allait devenir un futur héros, un futur acteur, en observant ses aînés. Et vu que Jean Chevalier le faisait en vrai, on était 19 acteurs sur ce spectacle, Jean était lui-même dans l'observation, dans la fascination, dans l'échange, dans la complicité avec les nombreux acteurs et actrices de la troupe des Hegdal et de la troupe de la Comédie Française, et jusqu'à ce qu'il s'émancipe et qu'il prenne le focus dans une seconde partie qui était plus organisée autour de lui. Mais c'était beaucoup plus cette jeunesse adolescente, cette arrivée fougueuse dans une histoire qui a une grande histoire avec un H, que vraiment la mise en parallèle de l'enfance qui m'intéressait pas, c'était la jeunesse.
Jean Chevalier, qui a été à l'affiche récemment aussi du Bourgeois Gentilhomme de Molière par Valérie Le Sor et Christian Eck au Théâtre Marigny. Christian Eck et Valérie Le Sor multi-nominés pour cette nuit des Molières. Christian Eck que l'on recevra demain midi dans la Grande Table. On parlait de Fanny et Alexandre, et puis il y a eu un conte de Noël adapté du film d'Arnaud Desplechin. Vous avez cherché, vous, les correspondances dans ces deux pièces, ces deux mises en scène, entre le théâtre et le cinéma?
Oui. C'est drôle, c'est comme si j'avais mis du temps dans ma carrière à comprendre, en tout cas à accoucher d'un spectacle qui allait mettre en parallèle ces deux supports qui m'ont tellement formée, moi, en tant que metteur en scène. J'ai fait un bac cinéma, mais parce que mon lycée de secteur proposait un bac cinéma. Je faisais du théâtre depuis l'enfance dans des MJC de quartier. Et puis après, j'ai choisi une vie de théâtre pour l'art vivant. Et je pense que l'analyse filmique m'a quand même énormément formée à la mise en scène. Donc je parle beaucoup cinéma à mes acteurs, je l'ai toujours fait, mais de manière extrêmement souterraine, jusqu'à ce qu'avec le projet Fanny Alexandre, Le Conte de Noël et Violetta au cinéma, j'ai eu la chance de pouvoir marier les deux et peut-être me sentir, avant je me sentais directrice d'acteurs, directrice de projets, oui, porteuse de projets, et avec ces projets, ces trois dernières aventures, c'est comme si je m'étais sentie metteur en scène.
Voilà,
c'est comme
que...
si le, voilà, le cinéma m'avait menée à la mise en scène de théâtre.
Et vous avez étudié le cinéma avant le théâtre. Du cinéma, vous en parlez, mais vous en faites aussi. Dans les couloirs de l'Opéra Bastille, vous avez notamment suivi avec votre caméra la soprano polonaise Alexandra Kursak.
Vous voulez plus bas encore ou ça va comme ça ?
Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 19h et la dernière représentation de la Traviata commencera dans 30 minutes. Début de la représentation dans 30 minutes.
Violetta, votre court-métrage, Julie Deliquet, confronte la figure de la célèbre cantatrice de la Traviata de Verdi à celle d'une actrice qui entre à l'hôpital pour soigner un cancer. La maladie ronge les corps et ronge les cœurs. Pourquoi cette figure féminine, voire cette double figure féminine ?
C'est assez drôle quand on n'est pas réalisatrice et qu'on se voit proposer le défi de la troisième scène. Parce que ça nous permet de nous positionner sur qu'est-ce qu'on va raconter, qu'est-ce qu'on va faire avec un support qui n'est pas le nôtre. Et on nous fait d'abord visiter les deux lieux, l'Opéra Bastille et l'Opéra Garnier. Et j'ai été frappée de voir à quel point l'Opéra Bastille, ses couloirs labyrinthiques me faisaient penser à des couloirs d'hôpitaux. Et puis on a regardé ce qui allait être bientôt présenté au répertoire de l'Opéra Bastille et on a vu que c'était la Traviata. J'ai co-écrit le film avec Éric Charron et on s'est dit une grande figure féminine, populaire. Moi, il y a toujours cet élan de support populaire que j'ai envie de défendre. Et puis, il y a eu l'idée de cet hommage aux artistes, aux vrais et aux faux, et de suivre comme ça deux représentations de la maladie, celle de la Traviata avec le personnage de Violetta et une représentation plus moderne d'une femme en chimiothérapie, tout en ne sachant pas quelle est la part de documentaire chez l'une ou la part de fiction chez l'autre.
Et la troisième scène de l'Opéra de Paris est souvent, ou parfois, une entrée vers la grande scène de l'opéra. On l'a vu cette année ou la saison dernière avec Clément Cogitor et les Indes Galantes. On imagine que peut-être ça vous titille l'idée d'un opéra à mettre en scène avec encore d'autres règles et d'autres contraintes. Merci beaucoup à vous, Julie Deliquet. On n'aura pas parlé de la saison à venir quand même du Théâtre Gérard Philippe de Saint-Denis, mais vous rouvrez avec Un Conte de Noël, hein.
Tout
la saison
fait.
Prochaine, la saison 2020-2021, qu'on espère non mouvementée, tranquille, belle et sereine. Merci mille fois à vous d'avoir
Merci
été avec nous.
Vous.
Merci.